Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Nathalie Amar.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi d'être avec vous ce matin pendant que Juan Gomez vous concocte deux émissions au Niger. Il vous donne rendez-vous d'ailleurs, Juan, cet après-midi à 15h au Centre culturel Oumaru Ganda pour assister à l'enregistrement de ces émissions. Allez-y, évidemment, si vous nous écoutez, à Niamey. Dans 30 minutes, vous aurez la parole à propos de la RDC, de cette promesse de Félix Tshisekedi, sortir d'ici 5 ans 20 millions de Congolais de la pauvreté. Ça représente environ un quart de la population et c'est évidemment un défi énorme dans ce pays où seulement une personne sur 10 a accès à l'électricité, une sur 4 à l'eau potable. Alors quelles sont pour vous les priorités? Cette promesse pourra-t-elle être tenue? Vous continuez de nous appeler, il y a déjà beaucoup de réactions, 33 9 693 693 70, vous réagissez aussi sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, comme tous les jours, ce sont nos questions sur l'actualité, vos questions et les réponses de la rédaction de nos experts. Bonjour Gilles.
Bonjour Nathalie.
Soyez le bienvenu, vous nous appelez de Cotonou au Bénin et vous avez une question concernant le Brexit après un week-end. On vient d'en parler, encore plein de rebondissements à Londres, on vous écoute.
Oui Nathalie, le Parlement britannique n'a finalement pas voté le texte sur le Brexit. Comment expliquer ce nouveau refus d'accord du Parlement britannique?
Alors pour vous répondre, Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, bonjour.
Bonjour.
Nouveau blocage, donc nouvel épisode de ce feuilleton du Brexit, alors que Boris Johnson, on l'a dit dans le journal, répète que ça sera bien fini de l'Europe, dans 10 jours que la Grande-Bretagne sortira bien de l'Union européenne. Thibaut Arroy, pourquoi la Chambre des communes n'a-t-elle pas voté ce texte?
Alors tout d'abord parce qu'un amendement a été déposé par un député, Monsieur Letwin, qui a proposé cet amendement qui déclare qu'on ne pourra pas avoir de vote sur le texte lui-même de l'accord de retrait avant d'en savoir plus sur la relation future que la manière dont concrètement en réalité les Britanniques allaient sortir. Donc il fallait aller plus loin et proposer une autre loi qui décrirait la relation dans les semaines qui viennent, là, la manière concrètement dont ça allait se passer. En plus de ça, c'est extrêmement difficile pour le Premier ministre d'obtenir une majorité. On sait qu'il l'a perdu il y a quelques semaines. Il n'a plus de majorité pour lui, pour son gouvernement. Et donc, il faudrait qu'il aille chercher le soutien d'autres députés, notamment ceux des travaillistes qui pourraient être tentés de soutenir cet accord pour en finir. Mais les travaillistes, eux, ont l'espoir d'ajouter un amendement pour rapprocher le Royaume-Uni du marché unique, ce qui n'est pas souhaitable pour ceux qui, par contre, au sein du gouvernement, sont les plus eurosceptiques, qui ne veulent surtout pas du marché unique. Donc on voit qu'il y a deux tendances opposées et qu'il est difficile de trouver un accord dans ce cadre. Quant aux Nord-Irlandais du DUP, ils ont absolument refusé cet accord parce qu'il prévoit l'instauration d'une frontière en mer d'Irlande, et donc il était vain de la part de Boris Johnson de chercher leur accord parce que pour eux c'est une condition absolument insupportable.
On peut dire, Thibaut Arroy, que le Parlement freine des quatre fers pour éviter une sortie sans accord, pour éviter le grand saut dans l'inconnu?
C'est ça, exactement. Il y a toujours cette peur que Boris Johnson pourrait dans quelques jours ou quelques semaines, inverser la direction prise avec cet accord et en réalité conduire le Royaume-Uni vers une sortie sans accord ou vers quelque chose d'extrêmement libéral, ce qui est insupportable évidemment aux travaillistes par exemple.
Gilles, vous aviez une deuxième question pour Thibaut Arroy.
Oui, à moins de 10 jours du Brexit, peut-il avoir un nouvel accord? Et quelles sont les conditions pour repousser la date butoir du Brexit?
Alors voilà, est-ce que la question fatidique, est-ce que cette date butoir du 31 octobre peut encore évoluer? Et est-ce qu'on peut renégocier? Est-ce que Londres et les Européens peuvent renégocier, Thibaut Arroy?
Alors non, l'accord qui a été négocié la semaine dernière, je pense, c'est la dernière forme qu'on pourra donner à cette relation, cette sortie. En réalité, il ressemble beaucoup à l'accord qui avait déjà été négocié l'année dernière par Theresa May. Il y a eu quelques amendements, surtout pour satisfaire les Britanniques, mais les Européens ont bien fait comprendre que c'était le maximum qu'ils étaient prêts à donner. Il est trop tard maintenant pour, avant le 31 octobre, encore modifier cet accord. En réalité, maintenant, si on veut avancer, il faut envisager un report de la sortie, qui pourrait arriver, hein, de quelques jours, quelques semaines, éventuellement, pour clarifier les choses encore un petit peu plus, mais en restant sur la base de ce qui a été trouvé la semaine dernière à Bruxelles.
Et on rappelle que Boris Johnson va tenter à nouveau aujourd'hui, hein, de soumettre au vote l'accord conclu la semaine dernière. Gilles, a-t-on répondu à vos interrogations sur ce dossier compliqué du Brexit ?
Oui, Nathalie, ça peut aller.
Eh bien, merci. Bonne journée à vous, à Cotonou. Merci également à Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Nous partons à présent pour le Burundi, Bujumbura, où vous vous trouvez. Ah oui, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors vous souhaitiez revenir sur la libération de Aja Raissouni, cette journaliste marocaine qui a été emprisonnée, condamnée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Contre toute attente, Mohamed VI, la semaine dernière, lui a accordé sa grâce à elle et à ses co-accusés, hein, son fiancé, son médecin, gynécologue notamment. Le roi a justifié cette grâce par, je cite, la volonté de préserver l'avenir des deux fiancés malgré l'erreur qu'ils auraient commise. Fin de citation. Ah oui, quelle est votre question ?
Oh oui, Nathalie. Au Maroc, Aja Raissouni a été graciée par les rois après avoir été condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Plusieurs collectifs sont nés à la suite de son procès pour dénoncer l'application des lois liberticides. Quelles ont été leurs avancées jusqu'à présent ? Et quel est l'avenir de cette mobilisation ?
Alors c'est vrai que la condamnation, l'arrestation d'Aja Raissouni avait suscité une importante mobilisation. Théa Olivier, vous êtes notre correspondante à Casablanca. Bonjour Théa.
Oui, bonjour Nathalie.
Et cette mobilisation, elle a pris corps d'abord dans un manifeste, le manifeste des 490 hors-la-loi.
Oui, alors ce manifeste, il a été lancé par l'écrivaine Leïla Slimani et la réalisatrice Sonia Terrab le 23 septembre. Il a maintenant dépassé les 12 000 signatures. Alors 12 000 signatures, cela veut dire 12 000 personnes qui déclarent ne pas respecter les lois qui pénalisent les relations sexuelles hors mariage et l'avortement. Alors la semaine dernière, le collectif a envoyé une première lettre au procureur général du roi, la semaine dernière, pour demander la suspension de l'application de ces lois considérées liberticides, mais aussi la suspension des poursuites actuelles en vertu de ces mêmes lois. Une autre lettre a été adressée aux médias publics et à la Haute Autorité audiovisuelle marocaine afin de programmer des débats réguliers sur les libertés individuelles. Pour le moment, les membres du collectif n'ont eu aucun retour.
Aucun retour, pas de réponse, Théa, mais la mobilisation ne va sans doute pas s'arrêter en si bon chemin.
Non, pas, absolument pas. La prochaine étape est de déposer une pétition pour demander l'abrogation de ces lois. Ensuite, le mouvement espère récolter les 25 000 signatures nécessaires pour déposer une motion au Parlement et proposer une loi qui dépénalisera l'avortement et les relations sexuelles hors mariage. Un autre collectif composé de plusieurs associations de défense des droits humains prépare de son côté un mémorandum appelant les législateurs à dépénaliser entre autres les relations sexuelles entre majeurs consentants, l'avortement mais aussi l'homosexualité et la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan, qui est actuellement passible de prison. Il faut rappeler alors qu'en 2018, la justice marocaine a poursuivi 14 500 personnes pour débauche, 3 000 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 pour avortement, alors que dans le pays, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour.
Donc évidemment, cette mobilisation est toujours d'actualité et notamment peut-être pour faire changer la législation. Ah oui, c'était d'ailleurs un peu le thème de votre deuxième question à Théa Olivier.
Oui, et puis après cette grâce, peut-on s'attendre à un assouplissement des lois interdisant l'avortement et les relations sexuelles au mariage ?
Alors Théa Olivier, cette affaire peut-elle conduire à un changement en profondeur de la législation marocaine ?
Alors, ça peut être possible parce qu'il y a une réforme du code pénal marocain qui est actuellement en discussion au Parlement. Les députés avaient jusqu'au 20 septembre pour déposer leurs amendements. L'échéance a été une nouvelle fois repoussée, ce qui pourrait donner l'occasion d'introduire de nouveaux amendements. Bon, pour le moment, aucun changement à annoncer. Concernant l'avortement, il est prévu de dépénaliser dans des cas d'exception bien définis, comme le viol, l'inceste ou de malformation du fœtus. Un léger assouplissement, mais qui était déjà prévu dans la réforme du code pénal avant cette grâce royale et qui suit les recommandations royales de 2015. Certains parlementaires, comme Omar Balafrej de la Fédération de la Gauche démocratique, veulent aller plus loin. Lui, il propose des amendements qui dépénalisent les relations sexuelles hors mariage entre deux personnes majeures consentantes, même s'il s'agit d'un adultère. Il demande aussi la dépénalisation de l'homosexualité, par exemple.
Sauf, Théa, que pour que ces amendements passent, il faudra convaincre la majorité parlementaire islamiste du PJD, le Parti de la Justice et du Développement.
Oui, ça va être très difficile, mais une des députées, Amina Mélanine, avait demandé sur les réseaux sociaux à ce que soit lancé en interne de ce parti, donc le Parti de la Justice et du Développement Islamiste, un débat sur les libertés individuelles. Une idée qui a été reprise par le mouvement de l'unicité et de la réforme, c'est l'aile prédicatrice et idéologique du PJD, toujours le parti islamiste. Son président, Abdelrahim Chiri, a estimé que tout Marocain et toute Marocaine a des relations sexuelles dans les faits, parfois hors mariage, et donc qu'elles ne doivent pas être criminalisées. Surtout que ces lois sont parfois utilisées à des fins politiques. Donc là, il fait référence à l'affaire d'Hajar Aissouni. Interrogée par RFI, la jeune journaliste, à sa sortie de prison, estime que c'est un débat sain qui pourrait aboutir à des décisions courageuses, mais elle craint que la société passe rapidement à autre chose et que la mobilisation faiblisse jusqu'au prochain scandale.
Et ces propos d'Hajar Aissouni sont évidemment à retrouver sur RFI.fr. Merci Théa Olivier, en ligne de Casablanca. Merci également Ah oui, bonne journée à vous, à Bujumbura. Patrice, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez une question à propos des États-Unis à présidentielle qui se prépare pour 2020 et en particulier la course à l'investiture dans le camp démocrate. On écoute votre question, Patrice.
Oui Nathalie, il y a quelques semaines aux États-Unis, ils sont les favoris des primaires démocrates. Au dernier débat qui s'est déroulé récemment, nous avions assisté à un renversement des tendances et Elizabeth Warren s'est retrouvée en tête des intentions de vote. Nathalie, j'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie la percée fulgurante de la candidate démocrate. Et puis, lors de ce débat, Elizabeth Warren a été attaquée de toutes parts par ses concurrents. À quoi est dû cet acharnement, Nathalie?
Alors, pour vous répondre, Patrice, Corentin Célin est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis et grand habitué de ce rendez-vous avec les auditeurs d'RFI. Corentin Célin, Elizabeth Warren, pour la situer rapidement, elle représente la gauche du Parti démocrate, alors que Joe Biden, l'ancien vice-président, incarne lui un courant plus modéré. Pourquoi fait-elle la course en tête aujourd'hui?
Je crois qu'on peut y voir au moins trois raisons. Premièrement, c'est le glissement du parti et des électeurs de la primaire démocrate vers la gauche en général. Il a été démontré que les propositions faites par tous les candidats cette année sont beaucoup plus à gauche que lors des précédents cycles présidentiels. On peut penser par exemple au projet d'assurance maladie universelle de sécurité sociale publique qui a été repris par presque tous les candidats, dont Elizabeth Warren. La deuxième raison, c'est qu'Elizabeth Warren, même si elle est relativement âgée, les moins que ses concurrents, et surtout elle est en politique nationale depuis moins longtemps, elle n'est sénatrice que depuis 2012, donc elle incarne un certain renouvellement. Et la troisième raison, c'est que par rapport à Bernie Sanders, qui incarne une gauche socialiste, radicale, vraiment anticapitaliste, Elizabeth Warren fait le pari d'une gauche, bien sûr, d'un positionnement à gauche du parti, mais plus raisonnable, plus rassurant, et c'est cela qui lui permet d'émerger un petit peu comme une troisième voie entre la droite social-libérale de Biden et la gauche anticapitaliste de Sanders.
Et c'est pour cette raison qu'elle a été la cible de toutes les attaques, c'est parce qu'elle devient finalement, au fil de la campagne, une candidate de plus en plus sérieuse à l'investiture.
Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la question de Patrice, elle a été attaquée. C'est un peu le privilège de ce qu'on appelle aux États-Unis le front runner, celui qui court en tête. Eh bien, tous les autres lui courent après et cherchent à l'attraper par tous les moyens. Donc, évidemment, c'était la reconnaissance de son nouveau statut de favorite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème de fond. Comme je le disais, Elizabeth Warren s'est ralliée à la proposition d'une assurance santé universelle publique, d'une sécurité sociale, et elle a refusé, depuis qu'elle s'y est ralliée au printemps, de la financer, de dire comment elle la financerait. Pour une raison simple, Bernie Sanders, lui, qui a été le premier à développer cette idée, avait dit qu'il augmenterait les impôts, et donc c'est pas forcément très populaire d'augmenter les impôts de la classe moyenne. Et donc, lors du débat, beaucoup de ses rivaux lui ont dit « Elizabeth, ta proposition est bien, mais tu dois la financer, dis-nous comment tu la financeras. » Et c'est ce qu'elle a d'ailleurs annoncé ce week-end, après le débat, qu'elle allait proposer un plan de financement.
En un mot, Corentin Célin, vous évoquiez Bernie Sanders, qui a eu des soucis de santé pendant ce début de campagne pour l'investiture, et qui a fait un comeback assez remarqué ce week-end.
Oui, tout à fait. Alors, un combat qui était indispensable, il a eu un infarctus, une attaque cardiaque, donc c'est à son âge, et il fête ses 78 ans ce mois-ci, c'est très grave, et donc il avait besoin de montrer qu'il est toujours dans la course, et il a sans doute un peu en avance annoncé le ralliement d'Alexandria Ocasio-Cortez, la fameuse jeune représentante du Bronx à New York, qu'il a rejoint pour un meeting commun samedi à New York. C'était donc un double message: on se rallie à moi, ça veut dire que ma candidature est toujours sérieuse, et la jeunesse de gauche du Parti démocrate est avec moi. Cependant, c'est un peu tôt dans la campagne, ce ralliement a fait du bruit, mais peut-être pas autant qu'il aurait pu en faire quelques semaines avant les premiers scrutins de février. Donc à voir si Bernie Sanders...
Donc il n'est pas encore tout à fait de retour.
Exactement.
Si on vous entend bien. Merci Corentin Célin et bonne journée à Patrice à Brazzaville. Une dernière question avant le journal. Maki nous appelle de Conakry. Bonjour.
Oui Nathalie, bonjour et bonjour à tous.
Et vous voulez parler, vous, du Grand Magal, le rendez-vous annuel de la confrérie des Mourides qui s'est tenu la semaine dernière à Touba en présence de centaines de milliers de pèlerins. Pèlerinage auquel vous avez assisté, Charlotte Hydrac, bonjour.
Bonjour.
Correspondante d'RFI au Sénégal. Maki, votre question pour Charlotte, elle va vous répondre directement.
Merci Nathalie. Alors Charlotte, moi j'aimerais connaître ce que représente exactement le Grand Magal pour les membres de la confrérie des Mourides.
Alors, c'est la fête, tout simplement, la fête religieuse la plus importante hein, pour cette confrérie mouride, donc l'une des confréries musulmanes soufis du Sénégal. Il y en a d'autres, hein, les Tidianes, les Layennes, les Niassènes, entre autres. Alors, Magal en Wolof, ça signifie célébrer, magnifier, glorifier. Et cette fête, cette date, ça marque le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, cher Amadou Bamba, qui a été envoyé au Gabon par les Français, l'administration coloniale, en 1895. C'était le 18e jour du mois lunaire de Safar, 18 Safar, et donc cette année, ça correspondait au 17 octobre, jeudi dernier. C'est une fête qui marque pour les Mourides à la fois le début des épreuves endurées par cher Amadou Bamba pendant l'exil, qui a duré plus de 7 ans jusqu'en 1902, le début des souffrances, mais aussi pour la confrérie, l'aboutissement de sa mission. Après son retour d'exil, cher Amadou Bamba a célébré le premier Magal à Durbel, où il était en résidence surveillée. Chacun, à ce moment-là, fêtait le Magal chez soi. Et puis c'est le deuxième ralif général qui a appelé les fidèles à se rassembler à Touba, ville fondée par cher Amadou Bamba en 1888, donc ville sainte pour les Mourides. C'est là qu'il est inhumé, c'est devenu un grand rassemblement populaire et c'est là que les fidèles se sont retrouvés cette année encore pour faire leur ziyar, leur pèlerinage.
Maki, vous aviez deux autres questions pour Charlotte Hydrac, on va aller vite, on arrive bientôt au bout de cette émission.
Oui, justement. Merci. Alors, pourquoi déjà les autres pays musulmans de la sous-région ne commémorent-ils pas alors ce Grand Magal ?
Alors, parce que c'est une fête très spécifique à la confrérie musulmane mouride du Sénégal, hein, directement liée, on vient d'en parler, à l'histoire de son fondateur, sachant que l'islam sénégalais se démarque dans le monde musulman avec cette pratique particulière, ce système de confrérie très majoritaire. Cela dit, il y a chaque année au Magal de Touba des musulmans d'autres confréries qui viennent, des fidèles mourides venus d'autres pays qui viennent pour participer à l'événement, et puis des fidèles mourides aussi qui ne sont pas au Sénégal et qui fêtent le Magal à l'étranger.
Un mot, Charlotte, du déroulement de cette manifestation, hein, vous y étiez, racontez-nous, il nous reste 30 secondes.
Alors, il y a une dimension spirituelle avec des lectures du Coran, recueillement au mausolée de cher Amadou Bamba, des prières, des récitations de Rasaïd, ce sont les poèmes écrits par cher Amadou Bamba qui résonnent dans toute la ville avec des haut-parleurs à toute heure du jour et de la nuit. Puis il y a une dimension aussi très festive avec ce qu'on appelle les berndés, ce sont des repas qui sont partagés en famille ou entre disciples qui s'offrent gratuitement et parfois les fidèles, les chefs religieux se préparent des semaines à l'avance, des mois à l'avance pour acheter de la nourriture. Ça peut aller jusqu'à des centaines de têtes de bétail qui sont achetés par des chefs religieux dans tout le Sénégal, voire jusqu'au Mali. Donc voilà, il y a une dimension de partage hein, de cet événement, d'accueil. Il n'y a pas d'hôtel à Touba, donc les pèlerins s'organisent pour dormir chez des proches, chez l'habitant ou chez leur marabout.
Charlotte Hydrac, merci de nous avoir fait partager un peu de cette atmosphère du Grand Magal. Et merci également à Maki pour cette question. Dans 10 minutes, le débat d'appel sur l'actualité. Peut-on sortir 20 millions de personnes de la pauvreté en 5 ans? C'est la promesse que fait le président de RDC, Félix Tshisekedi. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader.